devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'à ce qu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ». Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs, qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde, suivant l'arche de l'Éternel, pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant les 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rouab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit. Au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays.
Eh bien, on a écouté cette histoire de Josué. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire parce que il y a beaucoup de leçons à apprendre dans cette histoire. Ce n'est pas simplement le fait qu'à un certain moment, le peuple d'Israël est arrivé devant Jéricho, mais c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets et doivent être traitées de la même manière. C'est vrai qu'il y a un combat qui a été matériel, mais il y a un combat spirituel. Et le combat spirituel, eh bien, trouve les mêmes ennemis. Parce que derrière les habitants de Jéricho, eh bien, il y avait des puissances mauvaises. Il y a le diable, il y a beaucoup de puissances diaboliques qui occupent les trônes derrière les souverains. Et c'est, comme dit Paul, hein, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et c'est ce qui est arrivé avec Josué. Mais dans ce cas-là, eh bien, il y avait une guerre où des êtres humains mouraient et étaient tués. Mais nous ne sommes plus à cette époque où on agissait de cette manière-là, parce que ce n'est plus du tout la même chose. C'est à cette époque, et c'est pour cela, parce que quand on lit des textes comme celui-là, beaucoup de chrétiens sont choqués et essayent même de justifier la Bible. La Bible n'a pas besoin d'être justifiée, elle se justifie d'elle-même. Mais le problème, c'est que les gens de ce monde disent « Mais vous vous rendez compte, ils ont tué même des enfants, et des petits-enfants. » Mais nous ne savons pas le contexte et nous ne savons pas jusqu'à quel point ces gens étaient dépravés et jusqu'à quel point leur dépravation avait amené une déchéance sur les descendants, même les enfants, et qu'il était dangereux que cette humanité poursuive son existence. Ça, nous ne savons pas. Donc beaucoup, souvent, quand on dit, voilà, c'est pour cette raison-là que ces êtres humains ont été dévoués par interdit. Bon. C'est une explication. Elle satisfait pas. Nous ne savons pas. Dieu ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est que dans cette période-là, Dieu jugeait les peuples par le moyen d'autres peuples. Et le peuple d'Israël était le moyen du jugement de Dieu sur les nations qui habitaient le pays de Canaan. Donc le peuple d'Israël est arrivé et Dieu a exercé des jugements sur ces nations. Et l'agent par lequel il a exercé ses jugements, c'était le peuple d'Israël. Ensuite, quand le peuple d'Israël est tombé, Dieu a exercé des jugements sur Israël par les Philistins, par les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et les Assyriens, les Babyloniens, les Romains, les Grecs. La liste est longue, mais Dieu exerce ses jugements et a exercé dans le passé plutôt ses jugements par le moyen des nations. Et là, dans ce cas-là, il a exercé ses jugements sur les Cananéens par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Donc c'est Dieu, dans sa sagesse et dans sa justice, qui a exercé des jugements sur ces nations. Et il a employé le peuple d'Israël. Donc c'est la justice de Dieu. Nous jugeons par rapport à l'humanisme et à la valeur absolue de l'homme. L'humanisme nous dit que l'homme est une valeur absolue. C'est la valeur finale. Il n'y a pas une valeur au-dessus de l'homme. Mais nous savons qu'il y a une valeur au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Et c'est le Créateur. Et l'homme doit rendre des comptes à Dieu. Et les moyens par lesquels Dieu juge appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui décide qui va être juge et qui va exercer le jugement de sa part. Donc, à cette époque-là, eh bien, c'était le peuple d'Israël. Et comme je vous ai dit, plus tard, ça a été d'autres nations. Et c'est parfois, eh bien, il y a des peuples qui montent et qui disparaissent parce qu'un autre peuple est arrivé. Et quand vous lisez l'histoire de l'humanité, vous verrez combien d'empires ont existé, étaient très puissants. Et puis, en même pas un demi-siècle, ils ont disparu pour laisser la place à un autre empire qui est monté, qui est devenu puissant et qui a disparu. Et il y avait le moyen par lequel cet empire a disparu, eh bien, c'était des armées d'êtres humains qui sont arrivés, qui ont fait disparaître cet empire. Et au fur et à mesure, il y a une montée, et au fur et à mesure que ces empires montent, la décadence monte en même temps, et si bien qu'il arrive un moment où il faut mettre un point final à cet empire. L'empire s'écroule, disparaît, et puis il y a un autre qui vient à la place. Et c'est comme cela que les choses étaient renouvelées au cours des millénaires, parce que Dieu a exercé des jugements. Et c'est comme ça que l'humanité est arrivée jusqu'à aujourd'hui, parce que des peuples qui étaient plus purs, hein, façon de parler, hein, qui n'étaient pas décadents, eh bien, prenaient la place de peuples qui étaient décadents. Alors, les humains décadents ont souvent continué à exister, mais ils ont dû subir une réforme de la part des peuples qui étaient moins décadents. Et alors, ça a permis à l'humanité de survivre et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Dieu a exercé ses jugements. Et nous, êtres humains, nous sommes bien mal placés pour parler de Dieu et parler de ses jugements et de la sévérité avec laquelle il exerce ses jugements. Il est Dieu, il exerce ses jugements selon sa sagesse et selon sa justice. Et il est sans reproche. Et l'homme qui est si petit, si faible, et si pécheur et si digne du jugement de Dieu, n'a pas la voix, une voix assez forte pour s'élever et dire: Que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu as jugé? Pourquoi ces gens-là sont morts? C'est le jugement de Dieu. Alors, nous devons être bien modestes et accepter les choses comme elles sont. Et c'est vrai que on ne comprend pas, quand on lit ce passage de la mise à mort de tous ces gens de Jéricho, eh bien, moi, souvent, hein, je vous l'avoue franchement, j'ai lu ce passage et j'ai eu un temps d'arrêt. Mais c'est vrai que je fais confiance à Dieu pour ses jugements et pour sa sagesse. Il sait toutes choses. Il est absolument sans reproche dans ses jugements. Quel est l'homme qui va s'élever? Dieu dit les choses et c'est bien comme elles sont. Voilà. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, eh bien, la conquête du pays de Canaan a commencé par une révélation de l'ange de l'Éternel qui est arrivé et c'est le commencement de la conquête. Alors, si je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, je profite pour vous le dire maintenant. Eh bien, le chapitre 6 est mal coupé, hein, comme d'habitude. Alors, normalement, on devrait avoir le chapitre 6 devrait commencer au verset 13. Mais voilà. Il y a un découpage qui n'est pas fait comme il faut. Comme on dit souvent, les chapitres et les versets ne sont pas inspirés de Dieu. C'est le texte lui-même. Après, la division. Les divisions sont très arbitraires. Et là, c'est un cas où c'est le gros chiffre, hein, du chapitre devrait être placé plus haut. Donc, il faut inclure ces versets-là dans la suite du récit. Et alors, il y avait l'ange de l'Éternel, c'est lui qui vient, c'est Dieu lui-même. Parce que dans d'autres passages, il est parlé de l'ange de l'Éternel comme Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est à la tête du peuple d'Israël pour juger le pays de Canaan. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui s'avance de sa propre initiative, c'est Dieu qui a dit: Je vous donnerai ce pays. Et il a ajourné le don de ce pays pendant 430 ans. Et il y a d'autres passages qui nous disent: Jusqu'à ce que l'iniquité des Cananéens et des Amoréens soit arrivée à son comble. Tant que Dieu a laissé des possibilités de revenir. Et dans le livre de Josué, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont accepté de passer sous le joug de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et tandis que d'autres, eh bien, sont tombés sous le jugement. Alors, donc il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est là. La conquête commence avec ces versets-là. C'est là que l'on commence la conquête vraiment, qu'on entre dans le pays et que le peuple d'Israël prend possession du pays. Et la première chose qui se trouve sur leur chemin, c'est la ville. C'est une ville, la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était une ville immense et très bien fortifiée. Il y a des découvertes archéologiques qui ont été faites sur le site de Jéricho. Il y a plusieurs couches, hein, parce que les villes ont été bâties les unes sur les autres. Au fur et à mesure, une ville était détruite parce qu'il y avait des guerres, des invasions et des destructions, des pillages. Et puis on reconstruisait parmi les. On rasait tout et on construisait parmi les décombres de la ville précédente. Et voilà, il y a des couches de villes. Et on pense avoir trouvé la ville de Jéricho, la ville biblique et la ville de Josué. Et donc on sait que c'était une ville d'une grande importance. C'était ce que l'on appelait des villes-États. À cette époque-là, il y avait comment dire, plusieurs rois se réunissaient pour former une certaine nation, mais ce n'était jamais d'une grande étendue. Tandis qu'il y avait des villes qui avaient leur propre gouvernement, leur propre puissance, etc. Et nous verrons plus tard que même il y avait Adoni-Bézek, eh bien, avait 70 rois qu'il avait battus à la guerre et il les avait humiliés en leur coupant les pouces des mains et des pieds. Et donc, c'était 70 rois, c'est-à-dire 70 chefs de ville. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelait les villes-États. Et donc, Jéricho, il est question du roi de Jéricho, parce que c'était une ville-État. Et alors, les villes-États, eh bien, elles se géraient elles-mêmes et elles étaient puissantes. Certaines étaient plus puissantes que d'autres, et Jéricho était une des villes les plus puissantes. C'était une ville riche. Et les gens aussi vivaient dans la débauche et dans des cultes abominables d'idoles qui demandaient toujours plus de sang, toujours plus de sacrifices humains, parce que pour apaiser ces dieux, il fallait offrir des humains, des sacrifices humains, et la plupart du temps, c'était des enfants qui étaient offerts. Donc nous, on réagit, on se dit, mais quand même, c'était des êtres humains. Oui, mais à un certain moment, l'être humain est bien au-dessous de l'animal, parce que l'animal ne mange pas ses enfants, à moins certains rongeurs le font, mais ces peuples-là tuaient leurs enfants pour apaiser des divinités et abominables. Hein. Donc c'était une ville très puissante. Alors le peuple d'Israël est arrivé au pied de cette ville, au pied des murailles. Et il n'y avait pas une solution. Qui a une idée pour conquérir une ville qui a des murailles? Voilà, des grandes murailles, hautes murailles, et même suffisamment épaisses pour résister à des assauts même prolongés. Hein. Alors Dieu donne une solution. Et il dit, voilà, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. C'est la solution de Dieu. Elle semble tout à fait, comment dire, peu logique. Elle semble complètement en dehors des possibilités humaines. On se dit, mais comment nous on va faire le tour? Ça va pas ébranler les murailles. On va pas changer les circonstances en faisant le tour de la ville. Voilà. Mais nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10. On l'a lu la dernière fois, mais c'est bien de le relire parce que ce sont des versets du Nouveau Testament sur lesquels les chrétiens doivent beaucoup plus s'appuyer qu'ils ne le font. Alors c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Alors je vais vous le lire. Non, c'est 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Les forteresses, il y a des forteresses. Il y a d'immenses forteresses. Et nous sommes parfois devant ces forteresses, comme le peuple d'Israël au pied des murailles de Jéricho. Et on est aussi démunis humainement que le peuple d'Israël. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous avez des murailles qui vous dominent largement et des gens bien armés au-dessus. Et vous dites, mais comment est-ce qu'on va prendre ces murailles, cette ville? Et même, il y avait des portes d'airain et des verrous de fer. Hein. C'est quelque chose. Comment on peut détruire de pareilles fortifications? Et nous sommes aussi devant ce genre de problème. Alors, ces forteresses, ce sont des forteresses qui sont en nous, parfois. On se dit, mais je n'y arriverai pas. Je suis chrétien, je veux marcher avec le Seigneur, mais je n'y arriverai pas. Il y a des forteresses de ce monde. Il y a de l'opposition. Il y a une forte opposition. Il y a eu des nations et des peuples qui étaient très puissants et qui dominaient largement les chrétiens. Imaginez les Romains. Qui aurait dit qu'un jour les chrétiens seraient libérés des Romains? En 150 après Jésus-Christ, on avait dit, voilà, bon, les Romains, ils n'en ont pas pour très longtemps. Hein, dans quelques 2 siècles et demi, on ne parlera plus des Romains. Les gens vous auraient dit, qu'est-ce que tu nous racontes? On a l'évidence devant nous que les Romains sont invincibles. C'est impossible. Impossible. Et pourtant, nous, avec le recul, on dit, mais oui, mais les Romains sont tombés. Et puis on voit d'autres choses. Combien de fois, par la prière, par la persévérance, par le témoignage, des chrétiens ont triomphé, ont vaincu. Hein, c'est presque ce passage l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, que par la foi, ils ont triomphé. C'est la fin du chapitre 11. C'est par la foi, par la confiance en Dieu, eh bien les murailles tombent. Les plus grandes murailles, les plus puissantes murailles sont obligées de tomber. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous souvenir que Christ est vainqueur, qu'il a vaincu Satan. Et on ne le dira jamais assez que Christ, à la croix, a vaincu Satan. Et il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, même avant la crucifixion. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous, nous marchons à la suite du vainqueur. Comme Josué est arrivé devant les murailles de Jéricho, mais l'ange de l'Éternel, qui est une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, a dit, maintenant, je viens. Et lui, il est venu. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a écrasé la puissance de l'ennemi à la croix. Et même il y a un verset où il est dit, bientôt, Satan sera écrasé sous vos pieds. Et même il y a un verset dans la première épître de Jean où il est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le problème est toujours un problème de foi. Et la foi ne peut pas s'affirmer dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de leur privilège en Christ et de la puissance qu'ils ont en Christ. Nous avons des avantages. L'ennemi est vaincu. Christ a vaincu. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Et il a un pouvoir, oui, celui qu'on lui donne. Mais si on ne lui donne pas ce pouvoir, il n'a pas de pouvoir sur nous. C'est très important. Il y a des versets de la parole de Dieu qui ont une profondeur et un enseignement que nous devons prendre au sérieux. On dit, Seigneur, tu as dit, je me confie dans ce que tu as dit. Malgré les apparences, malgré que l'ennemi essaye de m'intimider, malgré que ce monde essaye de passer pour très puissant, même si l'impression donne l'impression de dominer toutes les situations, même s'il donne l'impression que le mal est si avancé qu'il est impossible de revenir en arrière. Tout cela, ce sont des impressions, ce sont des murailles de Jéricho. Mais la victoire qui triomphe des murailles, c'est la foi. Et c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu a donné sa parole. Il a dit, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et il a donné des ordres, il a dit comment il fallait faire. Et ce qu'il a dit, c'était la parole de Dieu, pas autre chose. Et c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu que les murailles de Jérusalem sont tombées. Vous voyez? C'est très important de se souvenir que Dieu a parlé et ce qu'il dit doit être pris au sérieux. Je sais que nous vivons dans un monde où nous sommes très occupés. On est occupés à des multitudes de choses. Et je crois qu'on peut même être encore plus occupé qu'on l'est. Mais on doit parfois laisser tomber certaines choses pour pouvoir lire la parole de Dieu sérieusement. Que dit Dieu? Quel est l'enseignement de la parole de Dieu? Quelles directives sont données dans la parole de Dieu pour que j'avance dans la vie chrétienne, pour que ma vie chrétienne triomphe du monde, que ma foi soit franchement établie sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas sur des impressions, ce n'est pas ce que peut dire ce monde, ce n'est même pas ce que peuvent dire des hommes. Même les hommes les plus éloquents et les plus puissants, ce n'est pas la parole d'un homme qui compte. C'est la parole de Dieu. C'est seulement quand ce qui est dit est soumis à la parole de Dieu, eh bien qu'il y a vraiment quelque chose qui peut nous aider et nous affermir et nous faire grandir et nous amener plus loin et triompher. Donc, rappelez-vous, il y a des murailles immenses et ne méprisez pas la muraille. Elle existe. Quand le peuple d'Israël était au pied de la muraille de Jéricho, il aurait pu dire, oh, mais cette muraille, elle n'existe pas. C'était une folie. La muraille existait réellement. Et quand il faisait le tour, alors je peux vous dire, imaginez le peuple d'Israël, le grand matin, il faisait le tour, hein, parce que c'est nous est dit, c'était le grand matin. Donc il faisait le tour, et combien de temps cela leur prenait? Je pense que ça prenait une bonne partie de la matinée. Hein. Ils devaient revenir, c'était vers les 11h midi de leur tour de la muraille. Et alors, ils avaient commencé à un endroit. Et puis peut-être c'était un endroit qui était au soleil, et ils avaient tourné, ils étaient à l'ombre des murailles, ils étaient revenus au soleil. Et c'était les murailles, ils les voyaient, ils les contemplaient, et c'était quelque chose de bien réel. Et la puissance des gens qui étaient dans la ville était bien réelle. Ce n'était pas un mensonge, c'était la vérité. Ce que leurs yeux disaient, c'était la vérité. Ils comprenaient bien la situation, mais il y avait ce que leurs yeux disaient et il y avait ce que Dieu disait. Et c'était deux choses différentes. Dieu n'a pas dit les murailles de Jéricho, c'est rien du tout. Il n'a pas dit c'est des murailles en papier. Il n'a pas dit ne vous inquiétez pas, les murailles, n'en tenez pas compte. Tout ça, il y a des chrétiens qui ont des raisonnements de ce genre. Mais le péché que nous avons dans notre vie, il est bien réel. C'est une réalité. Il faut l'appeler par son nom et dire, c'est ça. La puissance de ce monde, elle est bien réelle. Elle existe. C'est l'opposition à l'évangile. Existe vraiment. Il y a une puissance de l'ennemi qui est puissante et qui est vraie. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, eh bien, ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Et nous avons devant nous des éléments charnels, des éléments vaincus, obligatoirement plus faibles que ce qui est spirituel, que ce qui est éternel, de ce qui est saint, ce qui est de Dieu, la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Et nous devons bien tenir compte, parce que Satan essaiera toujours de nous faire dévier de ce que dit Dieu pour nous amener à ce que nous voyons. Mais ce n'est pas ce que nous voyons qui compte. Même, et c'est vrai, hein? Nous voyons la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Mais ce que nous devons considérer, c'est ce que Dieu dit. Parce que Satan vient toujours dire, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu sait très bien que que le monde est quand même puissant et que vous n'êtes pas suffisamment nombreux. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 10 millions de personnes devant nous, si ce n'est pas davantage. Mais regardez votre petit nombre. Vous croyez que vous allez y arriver? Humainement, c'est vrai. Spirituellement, il y a une solution. C'est la solution de Dieu. Alors nous ne la voyons pas. Nous pouvons faire certaines choses, mais il y a une solution de Dieu qui ne viendra pas à notre esprit. Alors Dieu, leur a demandé quelque chose de complètement hors de la sagesse humaine. Il a dit, faites le tour de la ville pendant 7 jours. Ce n'était pas la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'était de dire, préparez des armes, faites des tranchées, élevez des barricades, empêchez-les de sortir, affamez-les, ils ont alimenté par de l'eau, essayez de couper la rivière qui passe, qui les alimente l'eau, en eau. Il y avait des solutions de ce genre que Satan aurait pu suggérer. Mais Dieu a donné une autre solution qui passait pour totalement insensée et inadaptée. Et c'est la solution de Dieu qui a triomphé. Et Dieu n'a même pas parlé d'autres possibilités. C'était celle-là et il n'y en avait pas une autre. Et le peuple d'Israël n'a pas cherché à sortir de cette situation autrement que par la solution de Dieu. Alors ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour de la ville. Et il y avait celui qu'ils ne voyaient pas. C'était l'ange de l'Éternel qui était devant eux, qui les accompagnait. Il y avait les sacrificateurs avec leurs trompettes, et il y avait l'arche de l'Alliance, et il y avait les hommes de guerre, parce que le peuple tout entier ne suivait pas. C'était les hommes de guerre qui ont fait le tour de la muraille. Et ces hommes de guerre faisaient le tour, et puis à certains moments ils devaient crier, d'autres moments ils devaient se taire. C'est très important. Il y a des moments où il faut se taire. Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir comme Dieu demande, c'est tout. On ne parle pas. Et souvent, dans nos milieux chrétiens, on a toutes sortes de solutions, toutes sortes de paroles. Combien de fois j'étais dans des réunions de pasteurs et on a de nouvelles solutions, de nouvelles idées, de nouveaux stratagèmes, Mais un jour, j'étais dans une réunion où les personnes m'avaient invité à faire partie du comité. Alors quand je suis arrivé, je vois, donc c'était monsieur, il y avait son fils, sa belle-fille et madame, la mère donc de cet homme qui m'avait invité. Et moi, j'étais venu avec un diacre. Et alors, il voulait que nous soutenions leur projet. Alors, moi, je lui ai dit, financièrement, notre église n'a pas les moyens. Mais il insistait, bon, on est venu. Alors, je vois le fils qui se... Président, hein. Bon, alors, j'ai compris qu'ils essayaient de nous éliminer. Et puis, alors, monsieur a dit, c'est moi le président. Mon fils est le vice-président. Ma belle-fille est trésorière. Ma femme est secrétaire et moi j'étais sous-secrétaire et le diacre était sous-trésorier. Alors en plaisantant, je lui ai dit, écoutez, ça fait beaucoup de sous mais pas beaucoup d'argent. Alors il était un peu frustré, hein, il n'a pas aimé. Alors finalement, parce que bon, hein, ils attendaient qu'on les finance et puis on avait des sous. Alors... À un certain moment, ils présentent le problème et tout cela, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire, ce qui et tout. Et j'aurais dit, écoutez, il y a une solution. Ah bon, vous avez une solution? Ah oui, j'ai une solution. Mais c'est une vieille solution, hein. C'est pas une solution de maintenant, hein. C'est une vieille solution. Oui, non, mais si ça marche, il n'y a pas de problème. Je suis pour une solution, oui, il faut une solution. Ah oui, si vous êtes vraiment pour une solution, il y a une solution. Ben, je crois que c'est la prière de la foi. Ah non, mais non, je croyais que vous allez me dire autre chose. Mais Quelle solution vouliez-vous que je lui donne? On va cambrioler une banque? On n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? Fabriquer des billets? J'ai un très bon photocopieur, hein? Il fait des photocopies couleurs. On peut faire quelque chose. Excusez-moi, mais où est la solution humaine? Il n'y a pas de solution humaine. C'est la prière de la foi. Je ne vois pas une autre solution. Comptez sur Dieu. Comptez sur ce qu'il a dit dans sa parole. Nous, nous sommes toujours en train de chercher des solutions. Je peux vous dire qu'il ne m'a pas, il n'était pas mon ami. Hein. On est parti, il ne m'a pas dit au revoir. Mais que voulez-vous? Ce sont des personnes qui veulent entreprendre des choses avec des moyens humains. Nous sommes devant un monde spirituel et nous avons des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ces gens-là veulent combattre avec des armes charnelles, avec des moyens humains. Ah, j'aurais dit, ben, il n'y a pas de problème, on va vous faire un chèque de, je sais pas, d'une somme. Oh, il aurait dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, tout ça marche, vous allez et on va faire. Mais tout ça, ce sont des solutions humaines, les forteresses devant lesquelles nous nous trouvons. Même si nous avons les moyens, ne se conquiert pas de cette manière-là. Même si nous avions le nombre, nous aurions les moyens financiers, les moyens matériels, les solutions. Ce ne sont pas les solutions. Ce ne sont pas ces solutions qui changent les situations. Ce qui change les situations, c'est la foi, la prière de la foi, l'obéissance à la parole de Dieu, la prise au sérieux de ce que Dieu a dit dans sa parole. Je ne connais pas d'autre solution. Et c'est une vieille méthode qui a fait ses preuves. Depuis le Seigneur Jésus-Christ qui l'a employée, jusqu'aux apôtres, aux chrétiens des temps passés, et jusqu'aux chrétiens qui subsistent encore aujourd'hui dans la persécution, eh bien, il y a toujours la prière de la foi et la confiance dans les promesses de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là les armes que nous avons, les armes avec lesquelles nous combattons. Ils avaient d'autres armes, hein. Ils avaient des trompettes. C'est des trompettes, sept trompettes. Alors, pour trouver un petit peu ce que veulent dire ces trompettes, il faut se souvenir à quoi servaient les trompettes au milieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était une immensité dans le désert au début, hein. Alors, pour convoquer le peuple, il fallait des trompettes. Voilà. Alors, on sonnait de la trompette. Et le peuple se dirigeait vers l'endroit où ils entendaient la trompette. C'est quand il y avait des fêtes, elles étaient annoncées au son de la trompette. Et puis il y avait aussi une troisième utilisation, c'était l'armée. Quand l'armée se déplaçait, c'était avec les trompettes. Et le peuple allait là où ils entendaient la trompette. C'est toujours la trompette servait pour rallier le peuple, le réunir, le rassembler. C'est pour l'unir, pour en faire un seul homme. C'est pour en faire une unité. Il y a deux possibilités. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi la parole de Dieu. Nous nous rallions autour de la parole de Dieu. Dieu a dit. Et nous sommes solidaires. Nous faisons, si tous ensemble, nous agissons droitement selon la parole de Dieu, je peux vous dire que l'ennemi va commencer à trembler. Si nous obéissons scrupuleusement à ce que dit la parole de Dieu, l'ennemi va trembler. Nous nous rassemblons au son de la trompette. C'est la parole de Dieu. Alors il y a plusieurs trompettes, hein, il y en a sept là. Mais je pense que deux. Là, dans notre cas, bien suffisent. Il y a le Saint-Esprit aussi qui a fait de nous un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, une unité. Et c'est dans cette unité que nous sommes puissants. C'est le Seigneur Jésus a dit, si là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si deux ou trois s'assemblent pour demander une même chose, ils l'obtiendront. Dieu nous parle pour nous dire qu'il y a une unité des frères et sœurs en Christ sans laquelle il ne peut pas agir. Et il faut que nous, chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes de la même famille, comme nous a dit notre frère. C'est très important. C'est mon frère a besoin de mes prières, moi j'ai besoin des siennes. Et je peux vous dire, j'ai besoin des prières des frères et sœurs. Hein. Je peux vous dire, ça c'est vrai. Et je sais, quand les chrétiens prient vraiment, hein, je le ressens fortement. Hein. C'est quelque chose de très important. C'est donc ce fait d'être rassemblés, ralliés et unis dans un même esprit, une même volonté, un même désir de plaire à Dieu, de travailler à la gloire de Dieu, à la croissance de l'Église et du témoignage chrétien au milieu de ce monde. Je peux vous dire que quand ces trompettes, elles résonnent, eh bien les murailles, elles tremblent et elles finissent par s'écrouler. Parce que quand des chrétiens comprennent vraiment qu'ils sont une unité en Christ, il y a une diversité, mais il y a aussi une unité. Et quand cette unité est en marche, eh bien, c'est une puissance inimaginable. Nous ne savons pas ce que deux chrétiens parfaitement unis pour demander une même chose peuvent faire. Satan sait très bien. Alors il va mettre des petites difficultés entre vous. Il y a des clivages. Il y a, oh moi je suis, il a dit ça, mais moi je ne suis pas trop d'accord. Mais moi, Paul dit, ne discutez pas sur les opinions. C'est très important. Il m'est arrivé de discuter avec un frère ou une sœur sur une différence de point de vue sur des détails. Je peux vous dire une chose, si je veux perdre la paix avec Dieu, j'ai qu'à m'amuser à ce genre de choses et à discuter sur des détails, sur des trucs, tout ça, ça gêne notre unité en Christ et nous avons besoin d'être parfaitement unis. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Et il faut parfois savoir ce que nous voulons et dire qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que l'Évangile parvienne jusqu'au fin fond de Paris et que les gens soient sauvés, qu'il y ait de vraies conversions, que l'Église grandisse, que le témoignage chrétien prenne de l'importance et que ce monde tremble au nom de Jésus-Christ et qu'il fléchisse le genou devant Jésus-Christ? Eh bien, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas même deux, il n'y en a qu'une, c'est la solution de Dieu. Et c'est cette solution-là. C'est quand les trompettes sonnent, les chrétiens se rassemblent, sont parfaitement unis sous la parole de Dieu et sous le Saint-Esprit. Et ils disent, Seigneur, parle, enseigne-moi, montre-moi le chemin dans lequel je dois marcher. Et parfois, eh bien, il faut prendre une feuille de papier et un stylo et mettre par écrit certaines choses. Et le Seigneur vous a parlé, vous a montré, vous avez un verset qui vous a donné dans un moment de prière. Et ce verset, vous le notez et vous dites, Seigneur, je crois, je m'attache fermement à ce que tu dis. Tu as parlé, tu l'as dit. Je peux vous dire une chose, le Seigneur m'a fait des promesses. Il y a 22 ans maintenant, 21 ans, c'était l'année dernière. Maintenant, ça fait 22 ans. Il m'a fait des promesses il y a 22 ans que j'attends encore. J'ai vu là une partie de la réponse et comment Dieu a commencé à agir, mais j'attends qu'il aille jusqu'au bout de ses promesses. Et Dieu n'est pas limité dans le temps. Nous, nous sommes pressés, mais Dieu ne l'est pas. Et je me dis, ben, j'ai de la chance. Abraham, lui, il a attendu 25 ans. Moi, j'en suis qu'à 22. Mais il y a des moments où Dieu fait des promesses. Et vous devez dire, Dieu m'a fait une promesse. Et je mets une date à côté de cette promesse. Dieu m'a fait cette promesse à ce moment-là, dans cette prière ce jour-là. Et j'attends, Seigneur, que tu exauces cette promesse, que tu agisses selon ta promesse. Je crois à ta parole, je crois que tu fais des promesses et je m'appuie fermement sur tes promesses. Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Merci, Alexandre. C'est vrai. Alors, il a vaincu le monde et je dois le croire. Que ce monde, malgré les apparences, est un monde vaincu. Ils peuvent avoir des armées, ils peuvent avoir une grande puissance, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. le Dieu tout-puissant est le grand vainqueur. C'est lui qui est vainqueur. C'est lui qui aura le dernier mot sur ce monde. Ce monde est perdu. Il peut faire de plus grands progrès dans le péché. Il peut faire de plus grands progrès dans la désobéissance. Il peut s'enfoncer encore plus loin dans la débauche. Mais il ne vaincra jamais le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est déjà vaincu. Satan a déjà été vaincu. Et le prince de ce monde a été vaincu. Et le monde est vaincu. Nous ne marchons pas derrière un vaincu. Nous marchons derrière celui qui a triomphé. Celui qui a vaincu, il a vaincu la mort. Prenez courage. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Nous devons avoir cette foi qui renverse les montagnes, qui prend Dieu au sérieux et qui dit « Dieu a vraiment dit ». Et ça semble impossible, ça semble une folie. Mais en fin de compte, ce n'est pas une folie. Même si nous semblons être tout petits et tout faibles, eh bien, Dieu est avec nous. Et il l'a dit. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, les murailles de Jéricho sont tombées. Mais elles sont tombées le septième jour. Elles sont tombées le jour où Dieu a dit qu'elles tomberaient. Elles ne sont pas tombées avant. Et avant, tous ces tours, c'était l'épreuve de la foi. Et les murailles étaient toujours là. Et elles les dominaient toujours. Et ils passaient du soleil au pied des murailles à l'ombre des murailles. Et ils ont tourné. Et ils y ont tourné des heures, je peux vous dire, parce que je ne peux pas imaginer qu'ils ont fait ça en une demi-heure. Hein. La ville était suffisamment vaste pour que ça ne dure pas une demi-heure, que tout un peuple, toute une armée fasse le tour comme cela. Mais ils les ont vues, ces murailles. Et elles ne sont pas tombées le premier jour, ni le deuxième. Elles sont tombées au moment que Dieu avait dit, elles tomberont à ce moment-là. Et elles sont tombées exactement au moment où Dieu l'a dit. Et à ce moment-là, eh bien, c'était la conquête. Et le peuple de Jéricho était tellement, terrorisé du fait que les murailles étaient tombées d'une manière miraculeuse. Parce que vraiment, ça, c'était un miracle. Pour eux, c'était impossible que ça tombe de cette manière. Donc, ils étaient, je peux dire, morts de peur. Mais il y a une partie de cette ville qui a été sauvée. Ce sont ceux qui se sont réfugiés dans cette maison où était Rahab. Donc c'était sa famille. L'histoire de Rahab rappelle beaucoup l'arche. Quand un petit nombre a été sauvé au travers de l'eau, du déluge, hein, dans l'arche, eh bien ceux qui étaient dans la maison étaient sauvés. Ceux qui étaient hors de la maison étaient perdus. Il fallait rentrer dans la maison. Et c'est une image aussi de Jésus-Christ qui nous sauve. Si nous sommes sauvés par Christ, nous sommes sauvés. Hors de Christ, dans une religion, la plus belle religion du monde, nous sommes perdus. Parce qu'il n'y a qu'en Christ que l'on est sauvé. Hors de Christ, on est perdu. Ce n'est pas une forme religieuse qui sauve. Et cette femme et sa famille se sont placées sous la protection de Dieu. Elles ont obéi, elles aussi, à ceux que... Non, elles aussi, il y avait des hommes aussi. Mais il y a eu une obéissance. Dieu avait dit qu'ils devaient rentrer dans la maison. Par le moyen des espions, ça avait été dit qu'ils devaient rentrer dans la maison. Celui qui était en dehors de la maison, son sang était sur lui. Hein. Mais celui qui était dans la maison, il était sauvé. C'est très important de se souvenir qu'eux-mêmes ont obéi à la parole de Dieu. C'est dans cette obéissance qu'ils ont été sauvés. Alors, aussi bien le peuple d'Israël a remporté la victoire sur Jéricho par l'obéissance, aussi bien ceux qui étaient sauvés du désastre de Jéricho, eh bien, c'était par l'obéissance. Et c'était l'obéissance de la foi. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Dieu a dit. Ils n'ont pas cherché à se sauver par eux-mêmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit ben, « je vais sauter par-dessus les murailles et quand elles vont tomber, hop, je me sauverai et puis je n'ai pas besoin de rester dans la maison. Hein. » Eh bien, ces personnes-là sont mortes parce qu'elles n'étaient pas sous la protection du moyen par lequel Dieu devait sauver cette famille. C'est donc, vous voyez, nous sommes des chrétiens, nous sommes réunis, nous sommes là pour chercher le Seigneur, pour marcher avec lui, pour méditer sa parole. Mais ce que nous devons faire, c'est prendre au sérieux sa parole. On est trop. On discute trop la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont dites. Et Dieu prend pas toujours soin de nous expliquer tout, hein. Il dit quelque chose. Il le dit. Il dit, vous allez dévouer par interdit tout ce peuple, sauf ceux qui sont dans la maison. Mais tout le reste, vous le dévouerez par interdit. Dieu ne donne pas d'explication. Il attend l'obéissance. Parce qu'il est Dieu. Nous ne sommes que des humains. Même si ce monde nous donne de l'importance et dit, mais vous êtes des humains, vous êtes le point final de l'évolution. Après, ça évoluera sans doute plus tard encore, mais hein, pour l'instant, vous êtes au-dessus. Mais nous ne sommes que des humains et nous sommes des créatures. Et nous avons besoin de réapprendre l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et de soumettre même nos cœurs et nos pensées à l'obéissance de Christ. Parce que nous sommes des rebelles. Naturellement, nous sommes rebelles. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, domine dans ma vie. Je prends au sérieux ta parole. Donne-moi de la force pour vaincre ces mauvaises habitudes, cette rébellion qui est en moi, cette désobéissance, cette indépendance de toi. Cette manière de faire qui te déplaît et qui affaiblit ton Église, qui m'affaiblit et qui affaiblit l'Église. C'est important de passer du temps devant Dieu et de demander à Dieu qu'il change nos cœurs, nos pensées, nos intentions et que nous devenions de vrais disciples qui obéissent et qui marchent dans les voies de Dieu et qui font exactement ce que Dieu dit. Et c'est alors que la victoire est promise. Et qu'elle est obtenue aussi.